interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud.
Aujourd'hui, Fréquence Terre va parler de la couche d'ozone. Nous avons en ligne Sophie Godin-Beckmann, chercheure au CNRS, membre de la Commission internationale sur l'ozone. Bonjour Sophie Godin-Beckmann.
Bonjour.
Alors je vais reprendre un petit peu l'histoire de ce trou d'ozone. Je vais parler d'une info qui a été relayée sur le site de la chaîne télé LCI, qui reprend un article lui-même de la revue scientifique Nature, qui pose cette question, trou dans la couche d'ozone, l'Europe menacée. Vous allez voir pourquoi qu'on va peut-être relativiser avec Sophie Godin-Beckmann. Dans les années 80, des chercheurs experts dans l'ozone avertissaient la population mondiale, la couche d'ozone est percée, notre planète devient vulnérable aux rayons UV et très rapidement des mesures sont prises pour mettre fin aux gaz destructeurs de l'ozone. Ce sont les fameux CFC contenus dans les bombes aérosols qui ont été proscrits jusqu'à aujourd'hui où un trou d'une taille équivalente à 5 fois la surface de l'Allemagne s'est ouvert au printemps dernier dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique et s'est déplacé durant une quinzaine de jours au-dessus de l'Europe, de l'Est, de la Russie, de la Mongolie. Donc c'est un trou énorme. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était aujourd'hui sur ce trou d'ozone. Est-ce qu'il est dangereux pour l'humanité ?
L'événement que vous mentionnez, en fait, concerne ce qui a été observé cette année en Arctique et qui montre une destruction d'ozone du même ordre que ce qui est observé habituellement en Antarctique. Du même ordre, mais quand même moins importante.
Quel est le danger d'un trou dans la couche d'ozone ? Rappelez-nous un petit peu les dangers. Pourquoi est-ce qu'on avait voulu arrêter les gaz destructeurs ?
Eh bien, la couche d'ozone, en fait, agit comme un filtre sur le rayonnement UV qui arrive à la surface de la Terre. Et donc, un amincissement de la couche d'ozone, tel qu'il a pu observer au cours des 20 dernières années, provoque une augmentation du rayonnement UV à la surface. Et le rayonnement UV peut induire différents problèmes de santé pour les humains, notamment des problèmes de cancer de la peau, de cataracte. Ça peut avoir aussi des effets sur les plantes, etc. Donc il est très important que la couche d'ozone continue à filtrer les UV au niveau du sol.
Alors il y a une confusion qu'on va essayer de lever aussi ensemble très rapidement. Vous en parliez avec moi quand on préparait cette interview. On ne peut pas dire que le trou dans la couche d'ozone soit responsable du réchauffement climatique.
Non, ce sont deux problèmes distincts, même si ce sont deux problèmes connexes. Parce qu'il y a une interaction entre le réchauffement climatique et le problème de l'ozone, mais l'amincissement de la couche d'ozone, en fait, provoque une augmentation du rayonnement UV. Mais ce n'est pas cette augmentation du rayonnement UV qui va provoquer un réchauffement au niveau du sol.
Sur Fréquence Terre, Jean Jouzel, hein, climatologue et membre du GIEC, annonçait que le trou d'ozone vivait sa vie, qu'il avait des cycles encore peut-être un peu mal connus, mais que là, rien n'était très inquiétant. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter ? Est-ce que c'est normal, ces trous qui se ferment, qui se referment au-dessus de notre tête ?
Disons qu'ils ne sont pas normaux. Lorsqu'on a découvert le trou d'ozone antarctique, on s'est beaucoup inquiété et on s'est rendu compte que les responsables étaient les CFC et les halons qui ensuite détruisent la couche d'ozone. Donc on a pris des mesures pour faire en sorte que la couche d'ozone revienne à son niveau qui était celui au niveau des années 80. En fait, c'est le protocole de Montréal qui stipule l'arrêt des émissions de CFC. À terme, on s'attend à ce que les composés chlorés et bromés qui ont été émis dans l'atmosphère évacuent progressivement. Ils ont une très longue durée de vie dans l'atmosphère, donc c'est pour ça que ça va prendre un certain temps. Mais on s'attend à ce que l'abondance de ces composés diminue progressivement. Et on s'attend donc à ce que la couche d'ozone revienne à un niveau naturel. Simplement, ça va prendre du temps.
Est-ce que les premiers signes sont visibles ou est-ce que vraiment il faut attendre ? Parce que vous annonciez aussi dans la revue La Recherche qu'il fallait attendre 2060 pour en avoir le cœur net. Est-ce qu'on a déjà des premiers signes prometteurs ?
Oui, alors en fait, ce qu'on a observé au cours des dernières décennies, c'est que d'abord la couche d'ozone s'est stabilisée. On a toujours un trou d'ozone qui revient périodiquement, enfin tous les ans en Antarctique. On a une destruction variable au niveau du pôle Nord et à l'échelle globale, on a une stabilisation de la couche d'ozone. Donc maintenant, on s'attend à ce que progressivement, du fait de la diminution de l'abondance des substances destructrices d'ozone dans l'atmosphère, l'ozone revienne progressivement à un niveau normal. Mais ça, ça va prendre beaucoup de temps et les prévisions actuelles montrent qu'on peut attendre ce retour à l'équilibre suivant les régions entre 2030 et 2060, sachant que ce sera dans les régions polaires où on observera le retour à l'équilibre le plus tard.
Donc on va vers du mieux.
On va vers du mieux. Il est possible qu'une autre année, on ait aussi une destruction importante, mais progressivement, ça devrait s'atténuer.
Eh bien, merci beaucoup Sophie Godin-Beckmann. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et membre de la Commission internationale sur l'ozone. À très bientôt. Merci pour cette interview.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.